Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire extraordinaire. La grande aventure de la construction de la Tour Eiffel. Un récit que je tire tout droit d'un livre qui paraît chez Robert Laffont, La vraie vie de Gustave Eiffel, signé Christine Kerdelan. Vous allez voir, c'est passionnant d'un bout à l'autre. J'ai écrit cette histoire avec Tuc Duhal de Dieu le veut. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Au moment où commence mon histoire, Gustave Eiffel est un entrepreneur riche et célèbre. Il a construit des gares, des coupoles, des viaducs dans le monde entier. La gare de l'Ouest à Budapest, par exemple, c'est lui. Le pont Maria Pia à Porto aussi. Et surtout, il y a 3 ans, en 1881, il a participé à la construction de l'armature métallique de la Statue de la Liberté à New York. Et nous voilà donc en 1884. Dans 5 ans, en 1889, pour marquer le centenaire de la Révolution française, Paris va accueillir l'Exposition universelle. Le gouvernement s'attend à un record de visiteurs venus du monde entier. Et il a lancé une sorte d'appel à projet au pluriel. Pour l'instant, les ateliers de Gustave Eiffel n'ont décroché aucun chantier. Eiffel a juste demandé à ses collaborateurs de gamberger. Et un jour de juin 1884, deux de ses ingénieurs, Maurice Cochelin et Émile Nouguier, débarquent dans son bureau très excités. « Gustave, nous avons réfléchi à ce que tu nous as demandé. Une idée de monument pour de l'exposition universelle ? Oui, oui, un monument qui sera un exploit technique comme tu les aimes. » Bien, bien. Et l'idée est à la hauteur de l'événement? Tu sais pas si bien dire, Gustave. Elle est plus qu'à la hauteur. Et là, Maurice Cochelin pose un dessin sur la table. Gustave Eiffel prend le dessin, il y jette un coup d'œil et il le laisse tomber. Un pylône de pont. Enfin, mais non, Gustave, c'est une tour. Une tour de 1000 pieds. Nous allons réaliser le vieux rêve de tous les ingénieurs de cette planète. Nous allons bâtir la plus haute tour du monde. Gustave reprend la feuille. Dans la marge, ses ingénieurs ont dessiné un empilement qui donne une idée de la hauteur de ce pylône. La cathédrale Notre-Dame de Paris, 66 mètres. Surmontée de la Statue de la Liberté de New York, 93 mètres. Surmontée de la colonne Vendôme, 15 mètres. À la pointe duquel trône l'arc de triomphe, 50 mètres, lequel soutient la colonne de la Bastille, 17 mètres, coiffé de l'obélisque de la Concorde, 23 mètres, le tout surplombé par un immeuble de 9 étages. Une tour de ferraille gigantesque. Gustave, personne n'a jamais bâti un édifice de cette taille. 304 mètres. Vous ne voulez pas être le premier à le faire ? Ce genre de pylône, Gustave, est exactement notre spécialité.
Ouais. Je ne crois pas qu'une pile de pont un peu plus haute que les autres fasse rêver grand monde, hein. Surtout quand il n'y a pas de pont pour tenir dessus. Écoutez, je n'y crois pas beaucoup. Allez voir Sauvestre. Lui est architecte. Voyez ce qu'il peut en tirer. Il aura peut-être une illumination.
Sauvestre est son architecte préféré. Il l'a vu transformer en 3 coups de crayon un pont banal en œuvre d'art suspendue. Peut-être pourra-t-il faire quelque chose de cet amas de ferraille. Début septembre, Cochelin et Nouguier reviennent voir le patron. Stéphane Sauvestre a redessiné le projet. La tour de 1000 pieds ne ressemble plus à un pylône maigre et sec. Il a élargit sa base. Et ensuite, il a relié les 4 montants et le premier étage avec des arches. La tour ne comporte plus que 2 étages intermédiaires, 2 plateformes transformées en salles couvertes et vitrées. Et il a habillé le sommet d'un campanile. Et surtout, on peut y grimper grâce à des escaliers.
Ah, voilà ! Voilà un projet qui commence à ressembler à quelque chose.
Ce qui le gênait dans le pylône initial, c'était son inutilité. Et là, il vient de trouver une raison morale à cette construction. Cette tour, voyez-vous, ne peut pas se contenter d'établir un nouveau record du monde de hauteur. Elle doit avoir une vocation scientifique. Après tout, personne n'est jamais monté à 300 mètres en ville. Et si l'on met des ascenseurs pour grimper facilement au troisième étage, on pourra mener des expériences sur la chute des corps, observer la météo, étudier l'atmosphère de Paris. Le 18 septembre 1884, Gustave Eiffel dépose le brevet 164 364 au nom d'Eiffel, Koechlin et Nouguier. La machine Eiffel est lancée. Huit jours plus tard, le dessin est présenté au Palais de l'Industrie. Et Eiffel, qui pense déjà à sa pérennité, a trouvé un nouvel argument pour sa tour. Ce sera un phare pour l'éclairage électrique. Histoire de damer le pion à l'un de ses concurrents, Jules Bourdet, qui a construit le Trocadéro pour l'exposition de 1878 et qui, cette fois, propose une colonne soleil. Un phare, justement, qui éclairerait Paris de son immense rayon, avec un noyau central en granit de 18 mètres de diamètre. Il veut l'installer sur le Pont Neuf ou sur l'esplanade des Invalides. Et à chacun des cinq étages, il pense installer 16 chambres. Des chambres destinées à des traitements aérothérapeutiques. Car l'air pur à faible pression peut devenir une source de guérison pour ceux qui ne peuvent pas aller à la montagne. Et d'ailleurs, assez vite, les deux hommes, Bourdet et Eiffel, se mettent à ferrailler dans la presse. Bourdet évoque un vulgaire ouvrage de fer. Et il ajoute « Que nous resterait-il des monuments antiques, hein, si le fer avait été employé il y a 4000 ans ?» Eiffel répond via un journaliste de ses amis « Vous avez remarqué que le phare de M. Bourdet n'a pas de fondation. Hein, sa base repose directement sur le sol. C'est du grand n'importe quoi. » Et puis, écrivez, notre œuvre colossale sera une éclatante manifestation de la puissance industrielle de notre pays. Elle célébrera l'essor inouï du génie civil au cours des siècles. Écrivez. Pendant ce temps-là, Eiffel propose à Nouguier et Koechlin de leur racheter leur part du brevet. En échange, je vous propose une prime de 1% chacun sur toutes les sommes que je recevrai pendant la construction. Mais c'est notre idée. Pourquoi nous enlever notre part de gloire s'il réussit? Je ne veux pas vous enlever la paternité de la tour. Ce sera dans votre contrat. Votre nom sera cité. Mais les subventions que nous allons recevoir ne suffiront pas. Il faudra aller chercher des banquiers et des investisseurs. Et ces gens-là sont catégoriques pour mettre de l'argent dans le projet. Ils ne veulent voir qu'une seule tête. Les deux ingénieurs acceptent la proposition. Au total, 107 projets sont présentés à la commission de l'exposition universelle, dont certains proposent de réaliser une tour en bois ou en briques. Eiffel est appelé à plancher devant la commission. Messieurs, comme vous avez pu le constater, j'envisage une tour métallique de forme pyramidale et quadrangulaire. À trois étages, hein, le premier sera placé à 58 mètres pour une superficie de 4200 mètres carrés. J'y installerai quatre restaurants et une galerie courante. Et au milieu de cette galerie, monsieur Eiffel, du vide. Il faut que la construction soit légère et que le vent puisse passer à travers. J'ai cru comprendre que ce ne sera pas en acier, mais en fer. Du fer pullé, pour être précis. Hein? Plus souple pour résister au vent violent, et plus rigide pour la stabilité de l'édifice. Et que trouvera-t-on au deuxième étage, monsieur Eiffel? Une galerie extérieure, hein? Mais cette fois avec un plancher central. Et au troisième étage, un chemin de ronde qui sera couvert. Les visiteurs pourront, à l'abri du vent, admirer Paris et ses environs. Mais il y aura aussi une terrasse et un appartement dont j'aimerais conserver l'usage personnel. Et où mettrez-vous les ascenseurs, monsieur Eiffel? Dans les piliers de la tour.
Et combien cela va-t-il coûter?
Je dirais 5 100 000 francs.
Et le poids des visiteurs, monsieur Eiffel, vous y avez songé?
On pourra faire entrer 10 416 personnes pour un poids de 729 tonnes, ce qui est très raisonnable.
Le 26 mai, les résultats tombent. La tour de monsieur Eiffel, dite la tour de 300 mètres, est retenue parmi les 18 projets finalistes. Et le 12 juin, la tour de monsieur Eiffel est choisie comme porte d'entrée de l'exposition universelle. Sauf qu'à ce stade, le problème de la subvention n'est pas résolu. Eiffel est censé recevoir 1,5 million du gouvernement. Mais encore faut-il que la commission les lui accorde. Or, dans cette commission, il y en a qui l'attaquent sur l'esthétique.
Est-ce que tu sais ce qu'ils ont osé dire, Gustave? Ils ont dit que ce genre de tour serait mieux adapté à l'Angleterre et aux États-Unis. Hein? Ils disent que le goût architectural y est peu développé. Mais attends, il y a pire, hein? Un député du Var, un certain Georges Clémenceau, a déclaré textuellement, je te dis, « Le seul motif qu'on fait valoir en faveur de la tour, c'est que ce sera une chose qui sera peut-être absurde, qui sera peut-être laide, il a écrit laide, hein, mais qui attirera les étrangers. Il dit qu'il faudra connaître le nombre de voyageurs et qu'on pourra alors se demander s'il est nécessaire de donner 1 500 000 francs pour faire monter toute l'Angleterre à 300 mètres au-dessus de la Seine. Ah »
D'après les derniers devis, la construction de la tour va finalement coûter plus de 6 millions de francs sans les ascenseurs. Or, l'État ne va apporter qu'1,5 million, un quart de la somme. Eiffel doit donc aller chercher de l'argent chez les banquiers et les investisseurs. Car si la tour appartiendra à la ville de Paris, lui en aura la jouissance pendant 20 ans, jusqu'au 1er janvier 1910, pour rentabiliser son investissement. Mais s'il ne veut pas donner la majorité du capital aux investisseurs et aux banquiers, il lui faut trouver de l'argent, des fonds propres. Mais où? Eh bien, par chance, Eiffel vient de signer un énorme contrat avec Charles de Lesseps pour construire les écluses du canal de Panama. Et Lesseps accepte de payer très cher et de lui verser des avances considérables. Eiffel a décidé d'en engloutir une partie dans sa tour.
Mon intuition ne m'a jamais trompé. Vous verrez qu'ils seront des millions à grimper au sommet.
Il n'y a pas grand monde pour assister au premier coup de pioche le 27 janvier 1887 sur le Champ de Mars. Une cinquantaine d'ouvriers qui attaquent la terre durcie par le gel avec du matériel rudimentaire. Des pioches donc, des pelles et des charrettes tirées par des chevaux. La fille préférée de Gustave, Claire, est là au milieu des ouvriers. Elle est venue visiter le chantier.
Oh, ma chère Claire, les ouvriers ne savent pas qu'une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de leur tête.
Tu parles des financements qui risquent de manquer?
Ah non, non. Je parle des voisins, les riverains du Champ de Mars. Ils disent que la tour risque d'abîmer leur paysage et de faire baisser la valeur de leurs immeubles. Alors, ils attaquent la ville de Paris.
Mais la mairie et toi, vous allez gagner, n'est-ce pas?
Bon, j'en suis sûr. Mais ça n'est pas tout. Il y en a qui craignent que la tour s'effondre. J'ai dû m'engager à indemniser d'éventuelles victimes.
Gustave et ses ouvriers ont 27 mois pour bâtir la tour.
Regarde, ma chère Claire. Nous avons un mois pour creuser des trous, dégager la terre et couler les fondations qui supporteront les quatre pieds. Les fondations des piles sud et est, du côté de l'école militaire, sont les plus simples, parce qu'on les fait à sec. Mais pour les piles nord et ouest, le terrain est infiltré d'eau. Nous travaillons à 5 mètres au-dessous du niveau de la Seine. C'est un vrai marécage. Et ça va nous obliger à recourir aux fondations à air comprimé.
Tu veux dire les caissons qui ressemblent à des cloches de plongée que tu utilises d'habitude pour planter des piles de pont dans les fleuves?
Exactement. Mais mon souci, c'est la stabilité. Imagine si un pied s'enfonçait davantage que les trois autres. Mais j'ai une solution. Les piliers reposeront sur des boîtes à sable. J'ai appris ça en Égypte. Leurs obélisques reposent sur un caisson de sable au sec. On fera pareil. Et si notre pilier est trop haut, eh bien, on enlèvera un peu de sable.
Et si ça fesse, on le remontera avec un vérin hydraulique. Deux semaines plus tard, un coup de tonnerre s'abat sur le chantier. 47 artistes de premier plan publient une pétition contre la tour, dont Alexandre Dumas, Charles Gounod et Guy de Maupassant. Ils la considèrent comme le déshonneur de Paris. Je vous lis un passage de leur pétition. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs et architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester au nom du goût français méconnu contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel. Gustave Eiffel leur répond. Je crois, moi, que ma tour sera belle. Parce que nous sommes des ingénieurs, croit-on que la beauté ne nous préoccupe pas? Ma tour sera le plus haut édifice qu'aient jamais élevé les hommes. Et pourquoi ce qui est admirable en Égypte deviendrait-il hideux et ridicule à Paris? En juillet, les fondations sont terminées et on peut s'attaquer à la charpente métallique, des modules préfabriqués qui sont réalisés dans les ateliers de Levallois, préassemblés en tronçons de 5 mètres et amenés sur place par des voitures à cheval. Sur le chantier, on ne fait que poser les rivets. 250 ouvriers sont là tous les jours, même le dimanche, du lever au coucher du soleil, soit 13 heures par jour en été, 10 ou 11 au printemps et en automne, et 9 au cœur de l'hiver. Et c'est comme ça que la partie de la tour qui sépare le premier du deuxième étage est achevée en 6 semaines. Un record. Et maintenant, il faut s'attaquer au montage de la deuxième plateforme. Et là, les ouvriers deviennent nerveux, inquiets, irritables. C'est que le travail à cette hauteur leur semble plus dangereux. Et qu'au mois d'août à midi, il fait 40 degrés. Et quand il y a un orage, ils doivent redescendre. Et si l'orage dure, il faut chômer 2 ou 3 jours sans être payé. Bref, ils menacent de se mettre en grève. Les Français sont les meneurs, les Italiens se plaignent moins. Ils ont désigné un certain Vimont pour les représenter.
Les salaires sont insuffisants, compte tenu des risques. Hein? Nous voulons une augmentation du tarif de l'heure. Et pour le déjeuner, c'est de plus en plus long. Il faut descendre et monter à plus de 150 mètres. Ça prend 20 à 30 minutes dans chaque sens.
Gustave Eiffel ne peut pas prendre le risque d'un arrêt du chantier. Il en parle avec Adrienne, son amour de toujours, qu'il n'a pas pu épouser parce que son père a refusé. Mais son amour reste son amour. Elle vient de débarquer pour 3 jours à Paris.
Que vas-tu faire alors, Gustave?
Eh bien, je vais leur proposer la prise en charge des assurances.
Leurs assurances?
Oui, oui. Dans ma société, tous les ouvriers sont assurés en cas d'accident pour que leur famille puisse s'en sortir s'il leur arrive un pépin.
C'est une grosse somme?
2% de leur salaire. Alors, pour l'instant, elle est déduite de leur rémunération. Je la prendrai en charge et puis c'est tout.
Et pour leur pause déjeuner, pourquoi tu n'installerais pas une cantine au premier étage ou même au deuxième? Ça leur éviterait de descendre.
Pourquoi n'y a-t-il pas pensé plus tôt? Les charpentiers de la tour reprennent le travail. Et là, ça n'est qu'un répit. Une nouvelle grève se déclenche le 19 septembre. Le danger du travail à grande hauteur, la pluie, la neige bientôt. Des reporters sont venus faire des photos et forcément, ça impressionne le public et ça rend les ouvriers encore plus vindicatifs. Un matin, sur les 140 ouvriers, 27 seulement se présentent. Réaction de Gustave Eiffel.
Mais enfin, tomber de 150 mètres, c'est pas plus dangereux que de tomber de 50 mètres.
Mais il finit par céder. Il leur accorde une augmentation de 0,05 francs de l'heure. Pendant les 3 mois prochains. En octobre, la tour dépasse 250 mètres. Mais à l'approche de Noël, la neige tombe.
engoncé dans plusieurs couches de vêtements, un foulard autour du cou, un bonnet enfoncé jusqu'aux yeux, les charpentiers montent à reculons. Et ils se mettent de nouveau à revendiquer. Mais cette fois, Eiffel ne veut pas céder.
« Je vais refuser toute augmentation !»«
Mais enfin, c'est un suicide, Gustave. On est à 4 mois de la fin du chantier.
Laisse-moi finir. J'ai trouvé une meilleure solution. Je verserai une prime de 100 francs à tous les ouvriers qui seront là jusqu'au dernier jour. »
Et le travail reprend de plus belle. En mars 1889, après 2 ans, 2 mois et 5 jours de travaux, les charpentiers posent le campanile tout au sommet, à 312 mètres. Le gros œuvre est terminé. Le squelette est en place. Il reste de multiples détails à régler, mais l'inauguration peut avoir lieu. Gustave aurait voulu une cérémonie intime, avec les ouvriers, les contremaîtres et les ingénieurs. Mais comme une affaire d'État vient d'éclater, l'affaire Boulanger, on lui demande de faire diversion. Et donc, finalement, Eiffel doit se résoudre à accueillir 150 personnalités. Des hommes politiques, des fonctionnaires et des journalistes. Le président du conseil, Pierre Tirard, est là. Et pourtant, il y a quelques mois, il détestait cette tour. Il jugeait son style si peu français, tellement américain. Et à la grande surprise, il y a une foule immense qui s'est massée spontanément au pied de la tour. Eiffel propose aux invités de monter avec lui les 1792 marches jusqu'en haut.
Vous savez tous, enfin je l'espère, que les ascenseurs n'ont pas encore été installés.
Tout le monde n'était pas au courant.
Alors, il faut monter lentement, hein, le bras droit sur la rampe, en balançant le corps d'un côté puis de l'autre, hein, et en profitant de l'élan pour franchir la marche suivante. Moi, je mets 45 minutes pour aller au sommet.
Tous les invités décident de tenter l'aventure.
Les ouvriers, ils montaient tous les jours. C'est qu'il n'y a pas de danger pour la santé.
Et pendant la montée, Gustave dispense des commentaires.
Alors, cette tour, c'est 120 000 heures de travail, pas moins. Imaginez qu'il nous a fallu recruter 50 dessinateurs pour dessiner ces 18 000 pièces. La pression au sol, ridicule, hein, 4 kilos au centimètre carré, c'est-à-dire la moitié de celle que j'exerce moi quand je m'assois dans un fauteuil. Pensez aussi que le vent le plus violent n'entraînera au maximum qu'une déviation de quelques centimètres au sommet. Hein, et que les grosses chaleurs d'été font grandir la tour de 10 cm. Et que le froid va la rapetisser de 10 cm au milieu de l'hiver. Dites-moi, monsieur Eiffel, combien de morts a-t-on eu à déplorer sur le chantier ? Aucun, monsieur, aucun. Il y a bien eu quelques blessures à la suite d'imprudence, mais vous savez, il y a longtemps que l'exploit technique ne se mesure plus à la quantité de morts sur un chantier. Hein. Nous ne sommes plus à l'époque des pyramides, et ni même à Versailles sous Louis XIV. Hein. Le meilleur constructeur aujourd'hui, c'est celui qui sait éviter les accidents. Hein.
Le président du conseil, rouge pivoine, s'arrête au premier étage. Et il n'est pas le seul. Entre le deuxième et le troisième, le vertige a raison d'une trentaine de grimpeurs. Et au troisième étage, ils ne sont plus qu'une quarantaine. Et ensuite, il faut hisser le drapeau français au sommet. Et c'est lui, Gustave, qui s'y colle.
Allons, enfants de la patrie !
Et en bas, on tire 21 coups de canon de mortier. De retour en bas, le président du conseil Tirard remet à Gustave Eiffel la Légion d'honneur. Et 2 ouvriers charpentiers montent sur l'estrade pour offrir à leur patron un bouquet de lilas blanc.
Monsieur Eiffel, merci pour tous mes amis. Encore une fois, merci. Puissions-nous redire aux enfants de nos petits-enfants que nous avons travaillé au monument le plus imposant du monde. Vive l'ingénieur Eiffel Vive la République et vive la France!
Dès le lendemain, les ouvriers se remettent à travailler sur les finitions, la dernière couche de peinture, l'installation des boutiques et des restaurants et le montage des ascenseurs. Le 15 mai 1889, la tour est ouverte au public, enfin, et les visiteurs se bousculent. Hommes, femmes, français, étrangers, jeunes, vieux, riches, modestes. Au premier étage, ils prennent d'assaut les loueurs de jumelles et les boutiques de gadgets. Et les puissants aussi s'empressent de venir visiter la tour. Le président de la République, Sadi Carnot, en premier. Et après, le prince de Galles, avec la princesse et leurs enfants. Le roi de Grèce, le chat de Perse, la reine d'Espagne, le tsarévitch de Russie. Eiffel est devenu l'homme le plus couru de Paris. Le premier ingénieur après Dieu. J'ai tiré mon histoire du livre de Christine Kerdelan, « La vraie vie de Gustave Eiffel », qui paraît chez Robert Laffont.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.